9h-10h, France Bleu La Rochelle à votre service. Mehdi Benyaya.
Bienvenue à vous, soyez les bienvenus à votre service. Aujourd'hui, on plonge dans une aventure de taille, la randonnée. Nous sommes ravis d'accueillir Damien Dufour et Thibaut Mélin, deux explorateurs ayant affronté le GR10, ce sentier emblématique des Pyrénées qui relie l'Atlantique à la Méditerranée. Ils ont d'ailleurs même sorti un livre, hein, le GR10 et Chemin de Traverse, sorti le 3 avril dernier, qui relate leurs 800 km parcourus entre juin 2022 et octobre 2023. Avec plus de 46 000 mètres de dénivelé, leur exploit est tout simplement époustouflant. Mais ce n'est pas tout, car un défi encore plus impressionnant se profile à l'horizon. Eh bien, c'est le Tour de France à vélo des sites naturels, un périple de près de 8 000 km à travers les plus beaux sites français. Ce projet donnera naturellement naissance à un livre et un documentaire. Si vous êtes passionné par la randonnée ou si vous avez des expériences à nous faire part ce matin, partagez avec nous. Eh bien, appelez-nous au 05 46 50 67 68 ou tout simplement si vous souhaitez avoir des conseils par nos professionnels, puisque il faut le reconnaître, ils sont là avec nous ce matin. Damien Thibault, merci d'être avec nous ce matin.
Merci de nous recevoir.
Bonjour et merci. Oui.
Alors vous êtes de Rochefort. Hein. Vous êtes.
Alors moi j'habite à Rochefort, mais je suis basque de naissance et Thibault habite dans les Landes.
Et moi je suis landais, et j'habite à Mont-de-Marsan.
Vous êtes venu à pied?
Non. Cette fois, non.
Alors, expliquez-nous un peu ce petit périple déjà. Ce petit périple, non, ce n'est qu'un euphémisme, bien sûr, mais ce périple de 800 kilomètres, déjà, comment ça s'est déroulé? Est-ce que vous êtes en forme, là, aujourd'hui, après avoir atteint cet objectif?
Oh, ben oui, puis ça fait déjà un petit moment qu'on a terminé l'aventure, donc...
On a eu le temps de récupérer, quand même, entre-temps.
Ben, j'imagine, ouais. Ouais.
Non, mais oui, en fait, on a fait ça en 2022-2023, c'est ça. Et du coup, le livre est sorti récemment, donc on a eu le temps de digérer l'aventure, de se remettre, de récupérer de nos émotions.
Et comment est né ce projet? Alors, j'imagine qu'il faut tout de même être préparé un minimum pour se lancer dans cette aventure. Ouais. Vous êtes randonneur depuis combien d'années, messieurs?
En fait, on est tous deux randonneurs depuis quand même assez longtemps. Hein. C'est une passion qui perdure depuis déjà plusieurs années. Et après, l'idée en soi de parcourir le GR10, c'est une idée qui moi m'avait déjà traversé l'esprit, mais qui a surtout été initiée par Damien.
Oui, alors moi c'est vieux, c'est que j'avais traversé les Pays Basques par le GR10 en 2009. Et c'est vrai que ça avait depuis ce moment-là que ça traînait dans ma tête de vouloir traverser les Pyrénées en entier. Et ça s'est fait dans le cadre d'une collaboration que j'avais avec les éditions Glénat sur un livre de Compostelle. Et on leur a proposé justement de faire un livre sur le GR10. Ils ont dit oui, et du coup ça a ancré en fait ce projet-là dans la réalité. On s'est lancé l'année d'après.
Ça s'est fait entre juin 2022 et octobre 2023. Qu'est-ce qui s'est passé durant tous ces mois? Est-ce que c'est la période nécessaire pour le parcourir en toute sécurité ou tout simplement vous avez de votre côté profité pour contempler les paysages?
Bon, en fait, on l'a fait en plusieurs fois on l'a fait en 5 parties, je crois. Déjà, il y avait une volonté de le faire au fil des saisons pour pouvoir un petit peu traduire par la photographie le changement des Pyrénées au fil des saisons. Et le fait est aussi qu'on avait des emplois du temps personnels et professionnels à gérer en fonction. Donc, on y allait un petit peu, pas quand on pouvait, mais quand on avait réussi à isoler une période qui permettait d'y aller sereinement.
Et comment se prépare, messieurs, à ce type de périple? Alors, est-ce qu'il faut déjà une préparation psychologique avant la préparation physique ou c'est plutôt dans l'autre sens que ça fonctionne?
Alors, je pense que les deux fonctionnent très bien, les deux sont nécessaires. Après, la préparation physique peut largement se préparer en amont, tant que possible en tout cas, quand on habite dans une région, des régions comme les nôtres où c'est un peu le plat pays, hein, que ce soit les Landes ou la Charente-Maritime, c'est vrai que pour s'entraîner à grimper, donc s'entraîner à marcher avec du dénivelé, c'est pas forcément évident. Mais après, on avait chacun des méthodes différentes en fonction de nos habitudes sportives. Moi, c'était beaucoup de course à pied, de la marche chargée, par exemple. Et Damien, je sais que c'était plus du vélo et ce genre d'atelier. Et voilà, pour la préparation physique, ouais, c'est indispensable, effectivement, d'être bien prêt, quoi.
Quel type de préparation physique?
En fait, on s'est préparé un petit peu à l'effort soutenu, parce que du coup, comme on a été réduit dans le temps, on a fait la traversée en 34 jours. Et des fois, ça impliquait des étapes à plus de 30 km, et voire 1800 mètres de dénivelé. Donc en fait, ça nous demandait de s'entraîner à marcher avec du port de charge, et à pouvoir enchaîner ces efforts physiques de manière prolongée et répétée. Donc on s'entraînait en effet dans le plat, mais on a fait aussi des étapes d'entraînement en montagne pouvoir confronter un petit peu les hommes à l'aventure, quoi.
Et on va continuer à parler de ce très beau projet qui a eu lieu, mais également du projet futur. Là, vous passez un cap supérieur avec, avec ce Tour de France à vélo. Et on continue jusqu'à 10h avec Damien Dufour et Thibaut Mélin. Ils ont parcouru le GR10, ce sentier emblématique des Pyrénées. Ils sont avec nous, on parle de randonnée évidemment. Si vous souhaitez intervenir, vous nous appelez au 05 46 50 67 68. Messieurs, alors c'est un parcours qui est sur 800 km, c'est ça, hein, c'est toutes les Pyrénées, vraiment de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. C'est un parcours qui se fait en combien de temps d'une traite ?
Bah ça, en fait, ça dépend de chacun, ça dépend du niveau, ça dépend de l'envie, en fait, si on a vraiment envie d'avoir des grosses étapes journalières ou si au contraire on a plus envie de profiter de l'instant et de la nature qui nous entoure, quoi, en fait. Mais bon, globalement,
entre 30 et 60 jours, hein, faut compter.
C'est très variable, ça dépend vraiment.
Ouais, on peut le faire également en plusieurs semaines, plusieurs mois. C'était votre cas à vous.
Et en plusieurs fois aussi.
Et en plusieurs fois.
Tout à fait possible, hein. Beaucoup de gens d'ailleurs font des petits tronçons tous les ans. Ou plusieurs tronçons par an. Puis bon, ils finissent par le faire en entier. Voilà, c'est absolument pas une obligation de le faire en entier d'une traite. Et tout le monde peut y trouver son compte finalement.
Et il y a des personnes qui le font quasiment d'une traite.
Tout à fait, ouais.
Anne-Laure, qui est avec nous ce matin, l'a fait en une trentaine de jours. Il me semble, on va lui poser la question. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Alors, vous entendez l'émission, vous nous entendez depuis ce matin. Alors, vous l'avez fait en combien de temps ce parcours emblématique ?
Moi, je l'ai fait en 42 jours.
42 jours. Donc, on peut dire que ça s'est fait d'une traite.
C'est ça, ça s'est fait d'une traite, oui.
Et quelles sont les difficultés ? Est-ce que ça a été difficile pour vous psychologiquement ou vous êtes une habituée et finalement c'est juste symbolique cette fatigue ?
Quand j'ai entamé cette traversée, j'avais jamais marché autant de temps, jamais autant de temps toute seule, jamais bivouaqué toute seule. Donc c'est vrai que oui, il y a des difficultés physiques, surtout au début, le poids du sac notamment, les pieds, et puis en fait au bout de quelques jours le corps finalement s'adapte et les douleurs physiques disparaissent. Et ensuite une autre des difficultés, c'est la météo, la gestion de l'adaptation à la météo.
Vous préconisez quelle période pour pouvoir le faire un peu comme vous, peut-être pas forcément, puisque à ce niveau-là, on peut considérer Anne-Laure comme étant professionnelle.
Non. Je suis pas du tout. Non. Je suis pas professionnelle. Moi, je l'ai fait en juillet. Je trouve que c'est une bonne période parce que j'ai pas trouvé de neige. Les orages sont plus présents, je trouve, dans les Pyrénées en août. Il y a des plus gros orages, donc moi j'ai eu quelques orages, mais finalement j'ai été assez épargnée de ce côté-là. Donc je trouve que juillet c'est une bonne période.
Juillet c'est une bonne période. Vous avez d'autres projets à venir, Anne-Laure, prochainement? Vous en pensez quoi, tiens, du projet de ce Tour de France à vélo?
Je trouve ça super. En plus, je suis cycliste aussi, donc moi je trouve, enfin, j'adore tous ces projets d'aventure itinérante. Je trouve que ce soit sur le plan physique ou humain, c'est des belles aventures.
C'est de très belles aventures, vous confirmez, messieurs?
Tout à fait.
Qu'est-ce qui vous marque particulièrement lorsque vous êtes sur ces chemins? Donc, indépendamment, on va dire, du plaisir de marcher et découvrir du paysage, est-ce qu'il y a des liens qui se créent avec les gens autour de vous, qui vous voient marcher, qui se questionnent aussi, qui s'interrogent sur la raison pour laquelle vous êtes présent et d'où vous venez, pourquoi surtout?
C'est vrai que le fait de marcher, ou même que ce soit du voyage à vélo, en fait, le fait d'avoir un sac à dos attire un petit peu la sympathie et la curiosité des gens. Et c'est beaucoup plus facile et aisé de se lier, en fait, à des personnes qu'on n'aurait jamais pu rencontrer ni parler en d'autres circonstances. Et ça permet vraiment de se lier très facilement et même profondément, en fait.
Et c'est vrai que ça abat pas mal de barrières sociales, en fait, qu'on pourrait avoir de retenue quand on est dans la vie de tous les jours, en fait. Là, les gens vont spontanément les uns vers les autres, et c'est vrai que c'est très très plaisant, c'est très, on s'y habitue très vite, et le retour à la réalité est un peu compliqué, du coup, et c'est vrai que c'est chouette.
Et on a envie, c'est ça, Laure, on a envie très rapidement de réenchaîner un nouveau projet où on prend le temps de redescendre un peu et de se préparer.
Non, alors moi, pendant le GR10, j'avais déjà en tête la prochaine aventure dans laquelle j'allais me lancer. Je trouvais tellement ça extraordinaire ce que j'étais en train de vivre. J'avais pas envie que ça s'arrête, mais je savais bien qu'il allait falloir revenir au bureau, etc. Donc je me reprojetais déjà dans une autre aventure avant même d'avoir terminé celle-ci.
C'était à quelle période, quelle année?
C'était en 2020.
En 2020. Et donc j'imagine il s'est passé des choses depuis.
Oui, il s'est passé des choses. Oui. Du coup, l'année suivante, je suis partie faire le GR5, donc la traversée des Alpes. J'ai aussi fait la traversée du Jura en hivernal. Et ça, c'est clair que ça a été le début d'un changement profond dans ma vie. Où là, je suis partie, du coup, j'ai déménagé aussi, j'ai tout plaqué pour partir vivre en Savoie, plus près des montagnes.
Et vous y êtes en ce moment même?
Oui.
Bon, bah, c'est merveilleux.
Je parle depuis Chambéry avec la vue sur les montagnes.
Et quels sont les projets à venir pour les prochaines semaines?
Alors, moi, je fais du trail à côté et la longue distance, donc là, je prépare un ultra trail.
Oui, voilà. Donc, Anne-Laure, en fait, qui est juste modeste, mais elle a la carrure d'une professionnelle. Hein.
Non, parce que je suis vraiment pas rapide, mais je peux marcher et courir longtemps.
Mais forte psychologiquement. Merci beaucoup, Anne-Laure. Merci d'avoir été avec nous sur France Bleu La Rochelle. On continue à parler justement de ce GR10. Et vous nous donnerez aussi, messieurs, quelques petits conseils pour bien préparer une randonnée, notamment sur le plan physique. Et on parlera aussi de ce projet à venir sur ce Tour de France à vélo dans quelques instants. Et on continue à parler de randonnée, de parcours exceptionnels, physiques et psychologiques, avec Damien Dufour et Thibaut Mélin qui sont avec nous ce matin, qui ont sorti ce livre GR10 et chemin de traverse, ce magnifique livre qui est illustré aussi par des photos. Alors Thibaut, vous êtes photographe, vous êtes également vidéaste, et ça a été aussi un moment magnifique, j'imagine, en tant que passionné de la photo, d'avoir ces paysages à couper le souffle.
Non, c'est clair que c'est une aubaine, en fait. En permanence, on a des paysages à couper le souffle, on a tout un tas de possibilités qui s'offrent à nous visuellement. On a envie d'immortaliser un petit peu tout ce qu'on a, tout ce qu'on rencontre, que ce soit la faune, la flore, les paysages à perte de vue. C'est vrai que c'est extraordinaire.
C'est peut-être une des choses les plus importantes, au-delà de l'effort physique et le côté sanitaire, on va dire. La randonnée, c'est aussi de s'en prendre plein la vue au niveau des paysages.
Oui, on avait abordé, en fait, nous, on voulait créer le livre, on l'avait un petit peu scénarisé en amont de l'aventure, et ce qu'on voulait faire, c'est s'inspirer un petit peu de la tradition pyrénéiste, qui est de ascensionner, marcher, ressentir et transmettre. Et justement, voilà, c'était vraiment s'imprégner totalement de ce qu'on vivait, ce qu'on traversait, ce qu'on voyait, et ces paysages un peu époustouflants, et de pouvoir, par l'image et les mots, les retranscrire, en fait, et les transmettre.
Et les transmettre, et c'est ce que vous ferez également, Damien, dans quelques temps. On en reparlera aussi sur ce projet qui amènera forcément un documentaire et un livre avec ce Tour de France à vélo. C'est près de 8000 kilomètres. Quelques petits conseils, messieurs, pour les personnes qui souhaitent se lancer. Donc, on a vu que le GR10 pouvait se faire soit d'une traite pour ceux qui ont la condition physique, psychologique et aussi le temps, puisqu'il faut avoir énormément de temps devant soi, ou sinon peut se faire par étapes. Mais pour une personne, par exemple, comme Anne-Laure, qui l'a fait quasiment d'une traite. Comment on se prépare, notamment entre les différentes étapes, même pour se loger, pour se nourrir, pour se laver? Est-ce qu'il y a des associations? Est-ce qu'il y a des groupes chez qui il y a de l'entraide? Ou comment ça se présente?
Bah en fait, ça fait beaucoup de questions en une réponse. Je vais essayer d'y répondre au plus juste. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut préparer en amont. Déjà, faut quand même bien se rendre à l'évidence, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut préparer, se préparer psychologiquement, physiquement, éventuellement cartographier. Et du coup, prévoir éventuellement les lieux de bivouac. Mais il y a énormément d'imprévus. Dans tous les cas, il y aura des imprévus. On aura beau se préparer au maximum, il y aura toujours des moments où on ne pourra pas forcément bivouaquer là où on n'a pas eu de bivouaquer.
Et c'est ce qui fait le charme aussi de l'aventure.
Exactement ça. C'est ce qui fait, tout simplement, c'est la définition de l'aventure. Si tout était planifié dans un tableau Excel,
on va au Club Med en fait.
Exactement. ça perdrait complètement de sa magie et c'est ça aussi qui fait que même les galères qui sur l'instant sont pas tout le temps drôles, on va pas se mentir. Hein.
C'est quoi la pire des choses vécues pour vous ?
Je sais pas si on a la même chose, mais en tout cas la même vision. Mais en tout cas, une fois, on avait prévu de s'arrêter à une cabane, à la cabane d'Ourtiga, et de pouvoir tranquillement s'y reposer. Déjà, on arrive, elle est pleine, donc on pose la tente. Et on dort d'une nuit entrecoupée de réveil, et d'un coup un cri retentit en pleine nuit, quelque chose vraiment, enfin que le cerveau n'arrive pas à cartographier, on ne sait pas ce que c'est. Et en fait c'était un ours, et qui était peut-être à 150-200 mètres de nous dans la vallée, en train de dire coucou, je suis là.
Donc, et tourner autour de nous.
Voilà.
Mais vous, il était vraiment présent, vous le sentiez à ce moment-là ?
Ben, le bruit s'est déplacé tellement rapidement en fait dans le vallon que après, du coup, deux jours plus tard, on a pu se reconnecter à Internet, on est allé voir ce que c'est un cri d'ours, c'était exactement ça. Donc.
Non, c'était trop. Il se passait quelque chose dans nos cerveaux. On avait un doute, puis finalement, on en avait de moins en moins. Plus on entendait le bruit se déplacer. Et c'est un coin qui est connu pour avoir un ours qui vient très régulièrement se balader. Donc, ça nous étonnait moyennement, finalement.
Et on fait quoi, justement, lorsqu'on est confronté à ce type de situation ? Est-ce qu'on reste dans son lieu, dans sa tente, ou est-ce qu'on essaye de sortir pour prendre la fuite? On peut pas, un ours, ça va vite.
Pas faire grand chose,
hein. On avait nos petites bombes de poivre.
Ouais.
Mais bon, en pleine nuit, à 4 heures du matin, les réflexes sont un petit peu amoindris, donc, on prie.
Mais parce que cette petite bombe, c'est une bombe lacrymogène, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Non, pas tout à fait, justement.
Enfin,
ouais.
C'est fait pour lutter contre les ours? Enfin, c'est fait pour se protéger?
Voilà, ouais, justement, les bombes de poivre spécifiques, c'est pas des bombes lacrymogènes à proprement parler, parce que bon, l'idée, c'est pas non plus que ce soit pour se défendre contre un chien ou un ours ou n'importe quoi. Les bombes lacrymos, ça les rend aveugles. L'animal meurt, le but c'est de le faire fuir.
Ouais.
Les bombes de poivre, justement, elles sont vraiment très pénalisantes pour l'animal et du coup, il va s'enfuir, mais ça ne va pas le tuer, quoi. Ne va pas l'handicaper.
Bon c'est aussi c'est conseil, c'est super important, c'est un détail. Alors j'ignorais, j'ai pas été confronté à des ours, mais c'est
incapacitant, cherchez-moi, voilà.
Mais c'est vrai que c'est important pour les personnes qui sont en forêt, par exemple, avoir toujours cette petite bombe de poivre pour se protéger en cas d'agression, finalement, de tous les animaux, c'est pas que les ours. Ça peut être les chiens, vous l'avez dit, mais d'autres animaux aussi.
Après, il faut pas que ça devienne une psychose, hein, mais se faire de la randonnée longue en montagne, dans des endroits un peu isolés, ça peut être aussi effectivement croiser un plantigrade, même si c'est très rare, hein, quand même, il faut quand même le souligner. Mais après, voilà, il y a des animaux, il y a des gardiens de troupeaux, des patous, et c'est pareil, c'est rare, mais ils peuvent être agressifs. Il y a d'autres choses à mettre en place, comme rebrousser le chemin, par exemple, signaler sa présence. Il faut surtout pas surprendre l'animal, en l'occurrence dans le cas d'un ours, avant d'en arriver à dégainer sa bombe à poivre et à faire le cow-boy. Hein.
Et puis surtout, on avait dans les zones qui étaient réputées avec des ours, on avait une clochette accrochée au sac, qui en fait sonnait tout le temps, et ça permettait aux ours de savoir qu'on était là. Donc de pas favoriser la rencontre et de les prévenir et de pas avoir à dégainer la bombe et les arroser, quoi.
Et on continue à parler du GR10 et de randonnée, hein, principalement avec Damien Dufour et Thibaut Mélin, et des témoignages également, Thibaut et Damien. C'est Gilles qui est avec nous. Vous connaissez Gilles ?
Tout à fait. Ouais, Gilles, en fait, Gilles, c'est un sacré personnage, un randonneur qu'on a croisé en fait au tout début, en commençant le GR10, donc dans le Pays Basque.
Et qui est avec nous ce matin. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Gilles, ce matin sur France Bleu La Rochelle. Alors, quelle a été votre approche en croisant Damien et Thibaut lors de ce GR10?
Je l'ai
dit, il marchait
très vite.
Ah, très vite.
On croise souvent, on a passé des bons moments ensemble.
Et vous, c'était votre premier Gilles GR10 ou vous en avez fait plusieurs?
J'ai fait plusieurs étapes avant, et là j'ai fait en deux fois parce que j'étais blessé. Alors j'avais arrêté, j'avais repris de suite quelques jours après pour le faire en une fois le sortiment.
Et quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été face, Gilles?
Le temps, ça dure longtemps. Ça fait qu'au bout d'un moment, la fatigue s'accumule.
Ah bah oui, j'imagine. Vous avez, sans indiscrétion, vous avez quel âge, Gilles?
J'ai 61.
61. 61. Et donc, ça vous a donné envie de le refaire ou vous avez d'autres chemins, d'autres projets avant peut-être de refaire celui-ci?
Ah non, mais je reviens souvent sur le GR10, ça a perdu des tronçons pour un 10, 15 jours. Et après, là, j'ai fait le chemin de Compostelle sur la voie française.
D'accord.
Là, je vais partir faire le Piémont, une partie de Lourdes à Saint-Jean-Pied-de-Port et faire le Camino Français, Primitivo et le Norte en revenant sur la France.
Bah écoutez, en tout cas, on vous souhaite un très joli projet. Gilles, merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu La Rochelle. Évidemment, hein, si vous souhaitez nous apporter vos témoignages, vous nous appelez au 05 46 50 67 68. Et on a Michel qui est avec nous, qui nous appelle, il est pas très loin de La Rochelle, à Niel-sur-Mer. Et Michel, messieurs, a une question pour vous. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors Michel, vous aimeriez poser une question, donner une info peut-être, hein, pour ceux qui font le Tour de France à vélo, et c'est peut-être Damien qui peut être concerné par cette information. Vous écoutez Michel?
Oui, alors en écoutant ce matin la radio, donc voilà, les personnes qui le font, qui veulent faire le Tour de France cycliste, donc... nous avons été en cure dans le Gers l'année dernière et on a visité Notre-Dame des cyclistes, donc dans le Gers, 40 240 dans les Landes. Alors c'est sur la commune de La Bastide d'Armagnac et là c'est extraordinaire. Vous avez donc dans les années 30 ou 20 un prêtre, le curé Massy, M-A-2-S-Y, qui a donc créé tout seul une chapelle qui est existante et donc qui a créé un lieu pour honorer un petit peu tous les grands cyclistes de France qui ont fait le bonheur des amoureux du vélo. Et donc vous avez donc toute l'histoire, les vélos de nos grands cyclistes, Poulidor, Antil, enfin tout ça. Et donc c'est un lieu mythique. Il y a des témoignages, il y a des coupures de journaux qui expliquent l'histoire. Et il y a un lieu très sympa. Alors de la route, on le voit très bien parce que vous avez un énorme portique où il y a marqué Notre-Dame des cyclistes sur la route. Alors c'est à quelques kilomètres de la Bastide d'Armagnac.
Michel, vous avez fait un tour de France à vélo également ou pas du tout?
Oh non, j'ai honte. J'ai 8 vélos à la maison. Le pire, c'est que j'ai 8 vélos à la maison parce que nous louons notre maison l'été à Niel-sur-Mer. Mais par contre, j'en fais pas tellement. Je marche, je fais de la marche à pied, mais je fais pas tellement de vélo et c'est une erreur parce que à 70 ans, ça me ferait du bien.
Bah écoutez, Damien qui fera le Tour de France à vélo peut-être vous réserver une petite place avec lui. Vous en pensez quoi, Michel?
Oh là, je ne serai pas
en mesure.
En condition.
En condition.
En plus, j'ai des petits soucis avec mes jambes, mais par contre, je pense qu'il faut être persévérant, faut se battre, et puis je vais peut-être m'y mettre. Je vais peut-être m'y mettre. Mais là, pour faire le tour carrément, je pense que je serai plutôt une charge qu'autre chose.
Merci.
Mais je conseille à tous les gens qui passent dans le Gers. C'est pas que je veux faire de la publicité, mais c'est un lieu particulier.
Bah, merci en tout cas pour cette info voilà. Super utile et intéressante. Michel, merci d'avoir été avec nous sur France Bleu La Rochelle.
Je vous remercie de m'avoir donné la parole.
Merci Michel. Information intéressante, Damien. Alors c'était pas du tout une question de la part de Michel, mais plutôt une recommandation d'un lieu. Alors je ne sais pas du tout si vous, dans votre parcours, vous passerez par cet endroit-là, mais
non, je n'y passe pas, mais je peux missionner Thibaut qui habite pas loin.
Moi, je connais très bien la Bastide d'Armagnac. Effectivement, c'est magnifique. Hein. Déjà rien que s'y balader à vélo ou à pied, c'est juste sublime.
C'est vrai. Ça vous a pas donné envie Thibaut de faire du vélo également?
Ah si, mais j'en fais un petit peu, j'ai pas les niveaux et je m'envoie pas des distances comme Damien, mais je m'y mets petit à petit, ça commence à grandir en moi.
Et justement, Damien, c'est le moment de parler de ses projets à venir très prochainement. Alors Thibaut, vous ne serez pas accompagné, enfin vous n'accompagnerez pas Damien, puisque vous préférez en étant totalement transparent la marche, ou plutôt la randonnée, la course plutôt que le vélo. Et Damien, c'est vous qui allez vous lancer seul dans cette aventure de Tour de France à vélo. C'est un périple de près de 8000 km.
Oui, c'est ça. Alors c'est pas du tout, je suis pas le parcours du Tour de France officiel hein, des coureurs cyclistes. En fait, je fais un parcours de 8000 km au fil des sites naturels en France. Par une majorité d'itinéraires cyclables comme la Vélodyssée qui passe à La Rochelle ou la Scandibérique, et en fait c'est pour montrer qu'on peut voyager facilement à vélo de chez soi et découvrir la France par des itinéraires qui sont sécurisés et sécurisants, et que le voyage à vélo est à la portée de tout le monde.
Et ça se fait comment cette préparation? Est-ce qu'on a des sites internet? Est-ce qu'il y a des applications aujourd'hui peut-être qui vous ouvrent les voies avec des recommandations sur des chemins à prendre, sur des itinéraires, ou bien vous faites un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que vous prenez une carte et vous vous débrouillez?
C'est un peu un mix des deux aujourd'hui. On peut aller sur un site comme France Vélo Tourisme qui va répertorier tous les itinéraires cyclables en France et ensuite composer sa trace et son parcours en fonction de ses envies et puis des sites naturels qu'on veut traverser.
Et vous commencerez quand, Damien? C'est pour quand ce projet?
Je l'ai commencé cette semaine. Là, j'en reviens, j'ai fait quelques jours.
Ah d'accord. Voilà,
et là, j'y repars dans 10 jours.
Et combien de kilomètres avez-vous parcouru?
Là, pour l'instant, j'en ai fait 315.
315, mais ouais. est-ce que vous faites un Tour de France avec un point de départ et un point d'arrivée finale, ou un peu comme le GR10, c'est-à-dire étape par étape, vous faites une première étape, vous revenez, puis vous enchaînez avec une deuxième étape en respectant le parcours que vous vous êtes fixé?
C'est ça, en fait je vais le faire par tronçon, là aussi au fil des saisons, pour pouvoir un petit peu cartographier la France au fil des saisons et un petit peu traduire par l'image toute la richesse naturelle de notre pays.
Vous avez commencé, j'imagine, à prendre des photos, des vidéos.
Tout à fait.
Qu'on peut découvrir dès à présent ou
pas encore. Pas encore, parce que je suis rentré avant-hier soir, donc j'ai pas eu le temps de travailler dessus.
Et lorsque vous repartez pour une étape suivante, Damien, est-ce que vous repartez directement à vélo du point de départ ou de Rochefort, puisque vous êtes originaire? Vous n'êtes pas originaire, mais vous habitez à Rochefort, ou vous repartez au point final, au point d'arrivée de l'étape précédente?
Je repars au point final, et là aussi en favorisant les mobilités douces, parce que j'y vais en train.
C'est ça.
Voilà.
D'accord. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à comptabiliser les fameux 8000 km.
C'est ça.
Vous êtes fixé une période de combien de temps pour réaliser ce projet?
J'ai un an pour le faire.
Un an?
Ouais.
Ah oui, donc là, avril prochain, normalement, c'est bouclé, quoi.
C'est ça. Parce qu'après, je dois remettre les contenus pour le livre, donc voilà, j'ai un an pour le faire.
Un an pour le faire, incroyable. Mmh. Incroyable, et je pense, tout comme Claire, qui est avec nous. Bonjour, Claire.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Claire, sur France Bleu La Rochelle. Alors, Damien, qui vient de nous expliquer son périple, son nouveau projet, qui a vu le jour cette semaine, le Tour de France à vélo, donc près de 8000 km. Vous, Claire, vous êtes plutôt dans la randonnée?
Oui, c'est plutôt ce que j'ai découvert. Et je reviens pour ma part de 10 jours sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Et vous êtes novice, Claire? Vous êtes débutante, on va dire, ou c'est une activité que vous pratiquez depuis quelques années?
Alors c'est une activité que je dirais que j'ai découvert plutôt dans ma vingtaine, dans les Alpes. Et c'est pas quelque chose que je fais régulièrement parce que maintenant j'habite en Bretagne, mais c'est quelque chose que dans les vacances ou quand je me déplace et qu'il y a possibilité de marcher avec généralement du dénivelé, j'adore ça. Donc j'étais pas complètement novice quand je suis partie sur la route en effet du chemin de Saint-Jacques.
Claire, est-ce que, et messieurs également, hein, c'est une question que je vous pose aussi, est-ce qu'on devient un peu drogué aussi de la randonnée? Est-ce qu'on est un peu excité? On a envie de marcher une fois qu'on arrive finalement à palper les bienfaits de la marche et des paysages, de la difficulté également hein, de cet effort psychologique. Est-ce qu'on est, Claire, on devient drogué de la randonnée?
Complètement. Je pense que ça apporte tellement, enfin pour moi ça m'a tellement apporté de, alors là sur le chemin de Saint-Jacques, mais aussi quand je pars en randonnée, même sur une simple journée, il y a tellement de bienfaits qu'en fait, moi enfin personnellement, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Là, c'est arrêté le projet au bout de 10 jours parce que j'avais prévu 10 jours, mais j'aurais vraiment donné beaucoup pour pouvoir continuer. C'est tellement riche, tellement ressourçant. Il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits.
Et on peut dire que c'est une très bonne drogue qui est recommandée. Vous êtes d'accord, Thibault?
Tout à fait, ouais. Recommandation 100%.
Absolu. Damien, pareil.
Pareil, oui. De toute façon, Anne-Laure le disait bien tout à l'heure, qu'elle était déjà en train de préparer sa prochaine aventure, alors qu'elle n'avait même pas terminé le GR10.
Ah, c'est
ça, en fait. C'est une projection infinie qui ne s'arrête jamais sur la suite.
Et oui, et puis d'ailleurs, quand on n'en a pas assez, on passe aux gammes supérieures, notamment avec le Tour de France à vélo qui a débuté pour vous cette semaine. Merci infiniment, messieurs, d'avoir été avec nous. Alors, je rappelle que votre livre GR10 et chemin de traverse est disponible partout, hein, chez tous les libraires, également chez les distributeurs comme la Fnac.
Tout à fait.
Vous voulez dire quelques petits mots pour terminer là-dessus sur ce livre?
Oh, je vais laisser la conclusion à Thibaut.
Thibaut qui va conclure.
Bah, écoutez, voilà, c'est un livre qui nous a demandé beaucoup de temps, qu'on a fait vraiment avec passion, on a mis tout notre cœur, et c'est un livre qui n'est pas un guide, hein, on tient surtout à le préciser, qui est un récit d'aventure immersif, donc qui plonge sur l'itinéraire du GR10 à la découverte de toutes ces montagnes, de tous ces sommets, de toute la magie en fait qu'on peut trouver là-haut, qu'on peut trouver là-bas. Et vraiment, on souhaite à tout le monde et on espère que les gens qui vont se plonger dans cette lecture vont avoir envie de parcourir ces sentiers à leur tour.
GR10 et chemin de traverse de Damien Dufour et Thibaut Mélin, retrouvé chez tous les libraires et tous les distributeurs. Merci infiniment, messieurs.
Merci à vous.
Merci de nous avoir reçus.
À très bientôt. Damien, très bon courage pour vous pour ces 8000 km. Merci à Claire qui était avec nous il y a quelques instants. On écoute Vianney tout de suite pour terminer cette heure avec Palace sur France de la Rochelle.